Je vais commencer par une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Koum et Panis ? Non ? Personne n'a entendu parler de Koum et Panis. Waouh ! Alexandre, même pas toi. Voilà. Quand j'étais au collège, il y avait un cours qui était optionnel. Voilà, c'était le latin. Et cum et panis, ça veut dire partager le même pain. Et c'est devenu, après on l'a utilisé pour faire un nom familier, copain. Et pourquoi je vous parle de ça comme introduction ? C'est que quand Mathieu m'a appelé, il y a quelques temps, qui m'a demandé si je pouvais prêcher ce matin, j'étais en train de lire des passages de la Bible sur les repas de Jésus. Et j'ai halluciné quand j'ai vu le nombre de repas qu'il y avait dans la Bible. On parle souvent, c'est vrai, de Jésus qui prie. Je peux comprendre qu'il jeûnait aussi, vu tous les repas qu'il faisait. Et voilà. Et j'ai halluciné et je me suis dit, je veux parler de certains repas. Bon, il faut savoir quand même que les repas de l'époque, les repas qu'on parle de la Genèse à l'Apocalypse, c'était pas rien les repas, c'était pas quelque chose d'anodin. C'était vraiment la concrétisation d'une communion. On n'invitait pas comme on s'invite des fois à la fin d'un culte en disant ben viens, allez, j'ai sorti le barbecue, on va aller manger un petit morceau ensemble. C'était vraiment quelque chose de volontaire, quelque chose de voulu, quelque chose où on allait honorer la personne, ouvrir son cœur, lui dire qu'on l'aimait. Il y avait vraiment cette notion d'honorer. Il faut bien prendre ça, qu'on ait ça en conscience quand on voit Jésus ou d'autres personnes organiser des repas. Et on peut le voir d'ailleurs, hein, on parle souvent de Luc 15, du fils prodigue. Qu'est-ce que fait le père quand le fils repentant revient à la maison ? Il tue le veau gras, il fait un repas. Il ne tue pas la poule, il ne tue pas un chevreau. Il tue le veau gras, c'est ce qui coûtait le plus cher. Quoi. À l'époque, on ne tuait pas le veau gras n'importe quand. Et puis en plus, il a voulu qu'il y ait les villageois. Que c'était vraiment une vraie fête, il y a vraiment une signification à travers ce repas. Et puis bien sûr, quand on voit la vie de Jésus, il y a beaucoup de repas. Il y a tous ces repas avec ses disciples, bien sûr. Il y a les repas qu'il a organisés, dont le dernier repas, qui est important. Il y a le repas avec Marthe et Marie, hein, où on voit deux accueils un peu différents, avec Marie qui reste à ses pieds, avec Marthe qui court dans tous les sens pour préparer ce repas. Il y a ce repas chez Simon le pharisien, avec une femme pécheresse qui vient pleurer aux pieds de Jésus, qui essuie ses larmes avec ses cheveux et qui fait couler sur lui son parfum au grand prix. Il y a aussi ce repas extraordinaire que Jésus va partager avec ses deux disciples sur la route d'Emmaüs. Celui-là, j'aime beaucoup, après la résurrection. Il marche à côté d'eux, ses disciples ne le reconnaissent pas, il pose des questions, il répond. Et à un moment, il organise ce repas, il prend le pain, il prend le vin. Et au moment où ils se mettent à prendre ces éléments, poum, les yeux s'éclairent et ils reconnaissent Jésus. C'est quand même dingue quand même ce qui se passe pendant les repas de Jésus. Et puis il y a ce repas avec Zachée. J'aime beaucoup quand il y a toute la foule qui suit Jésus. Zachée, comme il est petit, il va en haut d'un arbre et il lui dit « Zachée, descends, je vais venir manger chez toi. » Et qu'est-ce qui se passe quand Jésus rentre chez Zachée ? Le salut est rentré chez toi. Et Zachée, quand même, c'était le gars, il commence à dire « Bon, c'est vrai que ma vie n'était pas vraiment en règle. » Il commence à prendre conscience qu'il vit dans le péché. Il commence à dire « Bon, c'est vrai que je suis un peu un voleur, un peu un escroc, mais c'est bon, je vais tout rendre. Et même, je vais rendre plus. » Et je crois que c'est ça quand Jésus rentre chez quelqu'un. Il y a une différence entre le avant et le après. Maintenant, je vais vous parler de notre repas. Un repas scandaleux. Scandaleux pour certaines personnes. On est dans cette période où Jésus a à peu près la trentaine. Hein, il a vécu sa vie tranquillement pendant 30 ans, une vie de famille tout à fait normale. Et puis il se met à être connu, donc il se met à être suivi. Puis on va le suivre, on va le poursuivre, on va le chercher. Et là, Jésus, il est en train de créer sa dream team. Voilà, il passe du temps avec Dieu. Dieu le Père, qui va lui donner une liste de gars, parce que Jésus sait que dans 3 ans, il va partir. Et il aimerait bien que ce qu'il a commencé continue. Donc Dieu va lui donner comme ça quelques noms de personnes à aller chercher pour s'entourer. Et là, on va voir que Jésus s'approche d'un bureau. Il va appeler une personne qui a un travail des plus détestables à l'époque. Il va s'approcher d'un bureau de publicain. Il va aller chercher Matthieu le publicain. Il faut savoir qu'à l'époque, les Juifs étaient sous l'Empire romain. Et les Romains demandaient aux Juifs d'aller collecter les impôts aux autres Juifs. Les impôts étaient à peu près de 40%. Oui, on se plaint en français. À l'époque, les impôts étaient d'à peu près de 40%. Et ces publicains, bien sûr, ils passaient un peu pour des collabos. Ils étaient entre Juifs. Et en plus, certains demandaient un peu plus. Et bien sûr, l'excédent, ils le mettaient dans sa poche. Autant aller jusqu'au bout, qui étaient des escrocs. Et là, Jésus va voir Matthieu et il lui demande de le suivre. Et Matthieu le suit. Sauf que suivre Jésus à l'époque, ce n'était pas juste passer 2 heures avec lui l'après-midi et aller discuter, c'est qu'il fallait tout arrêter. Donc Matthieu, il arrête son travail. Et qu'est-ce qu'il décide sur la route? Il dit, je vais faire un repas, encore un énième repas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Matthieu, il invite du monde chez lui. La Bible nous dit, on va le lire après. Il fait un repas et à ce repas, il invite des potes à lui, publicains. Donc style, il fait un pot de départ. Et il invite des gens des mauvaises vies. Et à ce repas-là, il y a même les apôtres. Sauf que, pendant ce repas-là, alors bien sûr, il dit, je vous présente Jésus, c'est mon nouveau maître, je vais le suivre. Mais pendant qu'ils font ce repas-là, pendant que Jésus prend du plaisir à être avec ces gens-là, il y a un autre groupe à côté qui regarde ça de loin. Un groupe qu'on appelle les pharisiens, les religieux de l'époque. Et pour eux, c'est quelque chose de scandaleux. Et on va lire un peu, on trouve ça dans Matthieu 9, versets 9 à 10. Alors vous pouvez trouver aussi dans Luc 27 où Matthieu s'appelle Lévi. Matthieu, on peut l'appeler Matthieu ou Lévi. Jésus partit de là et il vit en passant un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Jésus prenait un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres gens de mauvaise réputation vinrent prendre place à table avec lui et ses disciples. J'aime ce Jésus qui mange avec beaucoup de gens, avec plein de pécheurs. C'était des pécheurs vraiment reconnus. Ils avaient déjà leur réputation, c'est vraiment des gens qui ne suivaient pas la loi. Ils étaient vraiment, vraiment reconnus. Et si on lit plus loin, Matthieu 9, versets 11 à 12, « Les pharisiens virent cela et dirent aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus les ayant entendus leur dire, il s'adresse aux pharisiens, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice » car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Je répète, je prends plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir. Qu'est-ce que j'aime cette réponse cinglante de Jésus. Ce Jésus qui protège ceux qui sont à sa table. Jésus qui prend plaisir à être au milieu des pécheurs. Il dit aux pharisiens, vous êtes là pour juger ces gens, mais moi je prends plaisir avec eux. Et il leur répond, je prends plus plaisir avec eux qu'à tous vos sacrifices. Et en gros, il dit, maintenant bon vent, menez votre vie bon vent. Il prend plaisir avec les prêcheurs, il prend plaisir avec ceux qui rejettent, il prend plaisir avec ceux que les pharisiens jugent, il prend plaisir avec ceux que les pharisiens condamnent. Voilà, il leur dit, continuez votre route, bon vent, je prends plaisir avec eux. J'aime vraiment ce Jésus protecteur. Vous savez ce que combat Jésus à ce moment-là? Il combat l'orgueil. Il combat l'orgueil, mais il combat aussi le légalisme. Parce que les pharisiens avaient pour réputation de mettre une pression sur les gens. Et ça devait être dur pour eux, parce que ils se disaient qu'ils connaissaient la parole, qu'ils écoutaient la parole, qu'ils la vivaient au maximum. Mais ils avaient cette réputation de mettre la pression sur les gens. Et des fois, ils mettaient une telle pression que même eux n'arrivaient pas à le vivre. Et ça s'appelle le légalisme. Et je crois qu'il faut qu'on soit vigilant, Parce qu'on peut tous glisser vers ce côté-là, même en étant des chrétiens, même des fois si on pense qu'on encourage les personnes. Et si je vous disais, là, si je vous posais la question, de quel côté vous seriez-vous ? On est à table avec Jésus, nous, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il faut être vigilant. Je crois qu'il faut être vigilant quand on commence à avoir du savoir, quand on commence à accompagner des personnes, parce qu'on peut vite, mettre une pression. Et ça, je crois que c'est ce que Jésus rejette complètement. Jésus a tout le temps aimé avant de juger. Je l'avais dit à un de mes derniers messages, Jésus a tout le temps aimé avant de juger. D'ailleurs, quand il a appelé Zachée, il ne lui a pas dit « Repends-toi et une fois que c'est bon, tu auras fait la repentance et j'irai manger chez toi. » Avec personne, il a réagi comme ça. Donc, qu'on puisse réaliser que, voilà, si on est choqué d'un de ces repas, c'est que nous aussi, on a peut-être un travail à faire. Et voilà, qu'on soit vigilant, parce que je me répète, mais on peut vite glisser avec ça. Et j'aime ce texte parce qu'on présente Jésus dans une nature un peu paradoxale. Et la Bible nous le dit, on l'a chanté, c'est que Jésus est un agneau qui ôte le péché du monde. Et il ôte le péché des pécheurs, il est au milieu des pécheurs. Et en même temps, il peut être un lion. Et on voit vraiment dans cette histoire-là les deux natures de Jésus. Il a ce côté agneau où il se laisse s'approcher, il se laisse accessible, il crée une relation d'amour. C'est tout mignon, un agneau, on a envie de le caresser, et c'est exactement ça. Et en même temps, par rapport à tous ces légalistes, par rapport à ces religieux, il est un lion et il protège son troupeau. Et je veux te dire ce matin qu'il y aura toujours une place pour toi à la table de Jésus. Quoi que tu aies fait, je ne sais pas où tu en es dans ta vie, il y aura toujours, toujours, toujours une place pour toi à la place de Jésus, à sa table. Et Jésus sera toujours là pour te protéger. Celui qui t'oppresse, c'est peut-être quelqu'un de ta famille qui te dit « Mais toi, mais tu vas à l'église, mais on ne t'a pas élevé comme ça, tu as fait ça, mais toi tu dis chrétien, mais c'est du n'importe quoi. » Jésus est accessible, Jésus est là comme un agneau. Et en même temps qu'il l'a comme un agneau, parce que là, c'est en même temps, il te protégera de toutes ces personnes qui t'empêcheront de venir à lui. Ça, il faut en avoir conscience. Jésus est agneau, Jésus est lion, en même temps, dans ton histoire de vie. Donc si tu es là ce matin et que tu commences à douter si c'est ta place, bien sûr que c'est ta place. Et viens à la table de Jésus, viens à la table de Jésus. Et après, laisse-toi transformer. Et en même temps, nous qui sommes là, qui voyons peut-être des personnes s'approcher, soyons aimants, ne jugeons pas, aimons, on accompagne. Nous, notre rôle, c'est d'aimer, de prier les chrétiens. Voilà, et sans condition, comme Jésus l'a fait, sans condition. Jésus accueille avant de corriger, il aime avant de transformer, il s'approche avant de juger. Les légalistes, ils sont là pour montrer le péché. Jésus, il est là pour couvrir avec sa grâce. Je le répète, les légalistes sont là pour mettre en avant le péché. Jésus est là pour couvrir les gens de sa grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Qu'on n'oublie pas. Et on peut avoir tendance à inverser les choses et qu'on soit super, super, super vigilant. J'ai été blessé, moi, jeune converti. La plupart me connaissent, j'ai eu une vie, voilà, un peu de débauche, un peu beaucoup de débauche, et voilà, j'ai eu une conversion radicale un peu à la Saul de Tarse. Et quand vous, voilà, avec ma conversion, tout le monde est là, alléluia, gloire à Dieu, tout ça. Mais après, quand on commence à fréquenter quelqu'un d'une église, et puis il y a les gens qui vont voir l'autre personne en disant attention, Brissin, quand même, t'as vu ce qu'il a fait, J'ai été blessé par des chrétiens, j'ai été blessé. Alors, avec du recul, voilà. Dieu m'a parlé et puis c'était aussi une protection pour l'autre personne. Et voilà, puis l'autre personne a tenu le coup parce qu'elle est devenue ma femme. Mais on peut être blessant en voulant être protecteur. Et c'est pour ça que j'accentue là-dedans. Qu'on ne prenne pas la place de Dieu. Hein? Qu'on ne prenne pas la place de Dieu. Le Saint-Esprit agit, qu'on lui fasse confiance. Nous, on doit rester connectés au Saint-Esprit, mais qu'on n'aille pas trop loin. Maintenant, je vais vous parler d'une autre histoire qui m'a beaucoup, beaucoup touché et qui m'a beaucoup parlé. c'est quand Jésus nourrit toute une foule, qu'on trouve dans Luc 9. Cette histoire où on voit Jésus nourrir des foules, Jésus nourrir des milliers de personnes. Voilà, ça fait des jours qu'une foule suit Jésus et ils voient Jésus guérir, ils voient Jésus faire des miracles. Et puis à un moment, ils ont faim. Et depuis des jours, ils boivent et ils mangent la nourriture spirituelle. Mais là, il n'y a pratiquement plus rien à manger. Donc on trouve dans Luc 9, versets 12 à 17. Le jour commença à baisser et les douze s'approchant lui dirent « Renvoie la foule afin qu'ils aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour s'y loger et trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Mais il leur dit « Vous donnez-leur à manger. » Et ils dirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins que nous n'allions et que nous n'achetions de quoi manger pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, ils les firent tous s'asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples pour les mettre devant la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Et j'aimerais m'arrêter sur un instant sur cette parole. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et je crois que c'est une mission que nous donne Jésus ce matin. On est impliqué, les amis. On est impliqué. Et je me mets à la place des apôtres. Il y a quand même. Alors, la Bible nous dit qu'il y a 5000 hommes. Et hier, justement, j'ai dit 5000 hommes. J'ai dit, est-ce qu'il y avait les femmes, les enfants ? Je suppose. Donc, je suppose qu'il y avait au moins 10 000 personnes. Et là, j'ai interrogé mon ChatGPT enseignant théologien Alexandre Nano. Et je lui ai envoyé un petit message. Mais Simon, vous ne connaissez pas comment mes panis, mais il faut absolument que vous connaissiez Alexandre Nano. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, Alexandre, ça parle de 5000 hommes, mais ils devaient être au moins 10 000. Et il me dit, oui, on peut dire qu'il y avait entre 15 et 20 000 personnes. Tu veux que je développe ? Parce que ce gars, si je dis oui, développe, il m'aurait donné les adresses, l'âge, la taille, presque les adresses mail de tout le monde. C'est un gars, vous lui posez une question. 2 jours après, sur son site, vous avez l'étude biblique. Allez sur son site, Bibliorama. C'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou. Puis voilà, il y a une case en haut à droite, vous pouvez faire un don. Je ne suis pas commissionné, hein. Mais je pense que c'est important de bénir, hein, quand on a la chance d'avoir des gens comme ça. C'est important de savoir qu'est-ce qu'ils font. Et donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. C'est un ordre donné par Jésus. Ça sonne comme un ordre. Et je ne sais pas si ça vous résonne en vous, mais j'aimerais vraiment que ce soit un ordre de mission. Parce qu'on doit être impliqué là-dedans. On sait que Jésus vit en nous. On sait qu'on est ses yeux, on est son cœur, on est ses pieds, on est ses mains. Et je crois que c'est important d'être impliqué sur le fait de donner à manger aux autres. De la nourriture spirituelle, mais aussi de la nourriture physique. Et voilà. Et Jésus nous dit simplement, allez-y, donnez à manger, je ferai le miracle. Je ferai le miracle. Il y avait encore des restes, hein. Il y avait 5 pains de poisson, il y avait des restes encore à la fin. Donc je crois que Jésus veut nous impliquer et nous demande d'accueillir. J'ai vraiment ressenti ça à travers cette histoire. D'accueillir. Et je crois que pour accueillir, on a tous quelque chose. Je vais vous dire, on a vraiment un objet chez nous qu'on a tous. On peut être étudiant, on peut être chef d'entreprise, on peut être retraité. On peut être un homme, une femme, on peut être dans un appartement, on peut être dans une chambre d'étudiant. On a tous une table. On a tous une table qui peut être une table de la réconciliation, qui peut être une table du pardon, qui peut être une table de la grâce. Et à travers ce texte-là, je crois que vraiment, Jésus nous demande d'ouvrir nos maisons. D'ouvrir nos maisons sans condition. Il ne nous demande pas de faire un gros programme d'évangélisation dans la rue, même si je ne suis pas contre. Il ne demande pas de venir à une convention avec un très bel apôtre ou prophète dans l'église. Mais je crois qu'on a trop appris à l'église de venir à l'église. On a trop appris les gens à venir vivre certaines choses dans un bâtiment. Et on n'ouvre pas assez nos maisons. Et je suis le premier à être fan de l'Église. Je vais à pleine convention et je n'ai aucun problème avec ça. Mais je crois que des fois, on inverse aussi un peu les choses. Et merci pour qu'on vit ce matin. J'ai passé un très, très bon moment dans la louange. Mais je crois qu'au bout d'un moment, il faut qu'on s'intéresse à la multitude qu'il y a autour de nous. On parle régulièrement de faire des disciples. On parle régulièrement des gens à sauver et tout. Mais si on n'ouvre pas nos portes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nos maisons doivent avoir une réputation où il se passe quelque chose quand les gens viennent chez nous. Le chrétien doit avoir la génération de quelqu'un de généreux. Le chrétien doit avoir la génération de quelqu'un qui aime, de quelqu'un qui prie et qui reçoive sans condition. Alors oui, il y aura des gens sur notre route, on va dire « Ah, c'est pas simple ». Et on est là, on dit « Seigneur, comment je fais ? Comment je fais ?» Seigneur te dit « Mets le couvert ». « Seigneur, agis, mets le couvert, invite. » Et je crois que cette histoire veut vraiment nous dire ça. On a tous de belles propriétés, de beaux appartements, des propriétés privées. Je crois qu'il faudrait que ça se remplace en jardin public. N'oublions pas avec qui restait Jésus. Jésus, il est en nous. C'est cet appel qu'il nous donne ce matin. J'ai été touché quand Catherine elle a parlé de cette femme qui s'approchait de Jésus ce matin. Ça a tellement résonné en moi. Et je crois que ce matin, il y a des personnes qui n'osent pas s'approcher de Jésus. Peut-être par rapport à leur histoire de vie. Peut-être aussi parce que leur vie n'est pas en règle. Approche-toi de Jésus ce matin, il est accessible. Vois Jésus comme un agneau. Vois Jésus comme quelqu'un qui pardonne. Et puis si vous connaissez ces gens-là, invitez-les chez vous. Je crois que nos tables n'ont pas vu assez de larmes. J'ai vu plein de belles choses chez moi. J'ai vu plein de belles choses chez moi, mais pas assez. Et je crois qu'il faudrait tous qu'on raisonne comme ça. On n'a pas vu assez de larmes, pas vu assez de repentance, pas vu assez de réconciliation. Donc au bout d'un moment, il faudra sortir un peu de notre confort qu'on vit dans nos églises, qu'on puisse faire venir les gens comme on vient nous à l'église. Et que les gens puissent venir tout à fait librement chez nous. Et il a besoin de chacun d'entre nous parce que vous connaissez des gens que je ne connais pas. Vous côtoyez des gens que je ne côtoie pas. Vous avez des gens dans votre famille qui ne sont pas des gens de ma famille. Donc ce n'est pas vraiment une mission que pour nos leaders. Ce n'est pas une mission que pour certaines élites chrétiennes. Mais c'est une mission pour chacun d'entre nous. Aimer Dieu, c'est ouvrir son cœur, et on l'a chanté ce matin. Aimer les autres, c'est ouvrir sa porte. Il est nu, donnez-lui des vêtements. Il a faim, donnez-lui à manger. Il a soif, donnez-lui à boire. Alors, avec qui vous êtes prêt à vous asseoir? Ceux qui vous ressemblent? Ceux qui pensent comme vous? Ceux qui sont acceptables? Ou sommes-nous prêts à ouvrir nos tables à ceux qui dérangent? Mais qui sont aussi ce que Dieu aime. La table de Jésus n'est pas une table de sélection, c'est une table de grâce. La semaine dernière, j'ai vu, je ne sais plus quelle association c'était peut-être l'Armée du Salut, aimer pour servir. J'ai tellement aimé cette devise, aimer pour servir. Est-ce que ça vous branche qu'on vive cette réalité ensemble ? J'aimerais maintenant qu'on ait un petit temps de prière avec deux temps un peu différents. Je n'avais pas prévu de prier pour ceux qui n'osaient pas s'approcher de la table de Jésus. Mais je crois que c'est important que chacun se sente digne de s'approcher de cette table. Et après, j'aimerais qu'on prie pour nos cœurs. On prie pour nos cœurs et qu'on ne commence pas à avoir peur d'inviter les gens chez nous. Commence à prier, commence à demander à Dieu, commence à planifier. On sait planifier. On planifie d'aller à notre salle de sport, on planifie de venir à l'église, on planifie d'aller faire des courses. Commence à planifier des invitations chez toi. Ça sera peut-être une personne la semaine prochaine, ça sera peut-être notre couple la semaine d'après. Mais dans ce temps de prière, fais une introspection. de qui Dieu met sur ta route ces derniers temps. Je prie avec ma femme dans ce sens-là depuis des mois. On lève les mains et dit, Seigneur, notre maison est à toi. Et comme par hasard, il met des personnes sur notre route. Et comme par hasard, ils viennent manger. Et comme par hasard, ils reviennent. Et comme par hasard, la fin du repas, bien, il y en a qui se retrouvent en pleurs. Et je sais que si c'est une femme qui commence à ouvrir son cœur, je dis, ah ben là, dans 5 minutes, il y aura ma femme dans ses bras. Et bien, 5 minutes après, il y a ma femme qui la prend dans les bras. Et il se passe des choses. Et il se passe des choses. Est-ce qu'on pourrait juste vivre l'évangile comme on le vivait au moment des actes dans les maisons? Est-ce qu'on pourrait revenir à ça? Et comprenez bien, je ne fais pas ça ou l'église ou chez nous. C'est complètement complémentaire. Complètement complémentaire. Et après, par contre, tu auras des témoignages des gens qui viennent dire, ah, j'ai été invité dans telle famille. Ils m'ont parlé de ça, ils m'ont accueilli. Je ne sais pas pourquoi, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Parce que n'oublions pas qu'on a quand même un binôme qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est notre binôme et il nous conduit. Et on aura peut-être peur d'inviter, mais en fait, la personne, elle ne vient pas chez toi, elle vient chez Jésus-Christ de Nazareth. Car on aura compris ça. Elle vient chez Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, on va commencer à manger. Toi, tu sais qu'il n'y a pas qu'un repas. Puis tu vas commencer à t'intéresser à elle. Puis tu vois, d'un seul coup, tu auras peut-être une parole de connaissance. Je ne sais pas, mais je ressens que tu as vécu ça. Ben oui, il y a des chances qu'elle ait vécu ça. Et puis voilà, et puis tu ouvres ton cœur, et puis elle ouvre son cœur. Et puis là, on prie ensemble. Et c'est ça, rencontrer Jésus. C'est ça, rencontrer Jésus. Moi, je me suis tourné vers Jésus parce qu'une femme, justement, qui est devenue ma femme, vous le savez maintenant, mais j'aime bien en parler quand je prêche, alors que j'étais dans la débauche, elle est venue me voir et elle m'a dit, mais Brice, c'est juste que tu souffres. Et à un moment, elle a touché mon oreille, elle m'a sorti un truc que personne ne savait. Personne ne savait. Et là, je dis, waouh, il se passe quelque chose. N'oublions pas ce collaborateur qu'on a, ce binôme qu'on fait avec le Saint-Esprit. N'oublions pas ça. Donc, je te le redis, si tu te sens indigne ce matin, c'est super bien. Parce que tu es invité ce matin. Et moi, je peux te dire que tu es digne. Tu es digne de t'approcher à la table de Jésus. Ce n'est pas ma table, c'est la table de Jésus. Parce qu'en même temps, il se fera découvrir, en même temps, il prépare une protection pour toi, sur tous les gens qui veulent t'empêcher de s'approcher de lui. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et on va prier ? Ouais, Seigneur, je veux te remercier pour ta présence ce matin. Je veux te remercier pour ta parole qui est tellement vivante ce matin. Merci pour cette parole qui est encore parlante de nos jours. Merci de nous avoir montré tout ce que tu as accompli à travers tous ces repas. On pourrait faire une prédication par repas. Mais il y a un point commun, c'est chaque fois que tu as transformé la vie des gens. Merci pour tous ces gens soi-disant de mauvaise vie. Merci pour cette transformation que tu as accomplie. Merci Jésus parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Merci Jésus parce que tu es là ce matin pour relever les têtes, Seigneur. Peut-être que des gens se trouvent honteux par rapport à ce qu'ils traversent, mais toi tu leur relèves leur tête. Et tu leur dis, je suis là comme un agneau, je suis là. Et j'ai tout accompli à la croix pour toi. Je suis là pour te redonner une identité. Donc je te le dis ce matin, si tu es là comme le fils prodigue de retour à la maison. Et Jésus est là, il t'amène près du cœur de Père. Et ce papa qui vient pour faire la fête parce que tu reviens à la maison. Alors ne doute plus ce matin. Ne doute plus que tu es à ta place. Ne doute plus qu'il y a un projet pour toi. Il y a une nouvelle identité pour toi. On a un Dieu qui restaure, on a un Dieu qui relève, on a un Dieu qui couvre de son amour, qui prépare déjà une nouvelle destinée pour toi. Merci Jésus pour ton onction d'amour. Alléluia Jésus. Seigneur, merci pour nos maisons. Seigneur, merci pour nos tables. Seigneur, merci de vivre en nous, Seigneur. Mais on veut te demander plus, Seigneur. Seigneur, comme je l'ai dit, on veut vivre ce qui se vivait à l'époque des actes, Seigneur. À l'époque où on accueillait, à l'époque où on recevait, à l'époque où on regardait moins tout notre confort, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour qu'on ait ce réflexe d'ouvrir nos maisons. Je te prie qu'on puisse être à l'écoute des gens que tu mets sur notre route, Seigneur Jésus. Et maintenant, Seigneur, que tu puisses mettre des visages devant chacune des personnes. Saint-Esprit, maintenant, viens percuter les cœurs. Viens enlever la peur d'inviter, Seigneur. C'est peut-être des personnes avec qui nous nous sommes embrouillés, Seigneur, que nous devons inviter. Parce que tu es un Dieu de réconciliation, tu es un Dieu de pardon. C'est peut-être des personnes que nous avons blessées également, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remets nos collègues de travail, je te remets nos familles, Seigneur. Tu sais qui nous avait besoin de rencontrer, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la liberté d'agir. Tu nous impliques dans ton projet, Seigneur. Merci pour cette belle mission, Jésus. Merci, Seigneur, que nous fassions ces choix de façon intentionnelle, Seigneur. Et que tout ça te rende gloire, Seigneur. Nous avons besoin de montrer ta gloire à toutes ces personnes qui nous entourent, à toute cette multitude, Seigneur. Seigneur, pardon pour chaque fois que moi aussi à mon niveau j'ai jugé certaines personnes, Seigneur. Pardon pour chaque fois que je n'ai pas eu ton regard, chaque fois que je n'ai pas eu ton écoute. Pardon pour chaque fois que je suis tombé dans une religiosité, Seigneur. Et malgré mes imperfections, continue à m'utiliser, Seigneur. Continue à nous utiliser, Seigneur. Mais cet esprit vient prendre toute la place en nous. Merci pour ce lieu, Jésus. Merci pour ce lieu où on prêche le cœur du Père. Merci pour ce lieu où on prêche la grâce, Seigneur. Thank you.